le trouva plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il plaisait à Dieu. Deux passages qui parlent de cet homme, c'est peu peut-être pour en tirer un enseignement qui nous concernerait aujourd'hui, puisque la parole de Dieu a pour principe de nous parler des choses d'Israël, de la création, de l'Église, mais des choses de ces temps-là pour qu'aujourd'hui cela nous parle et nous aide à comprendre quelle est la pensée de Dieu pour nos vies. Ici, on a un personnage, un homme dont il est dit dans Genèse qu'il a vécu 365 ans. Si on cherche à savoir qu'est-ce qu'on a comme caractéristique le concernant, on sait qu'il est connu pour avoir marché avec Dieu. Enoch marcha avec Dieu. On sait, c'est quand même pas une caractéristique si banale, qu'il n'est pas mort. Il n'est pas passé par la case mort, il est monté tout de suite. Deux hommes sont dans ce cas, lui et Élie dont je parlais tout à l'heure. Il est cité dans l'Épître aux Hébreux comme étant un témoignage de foi, quelqu'un qui a été fidèle à Dieu, au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux. Et puis il est mentionné, c'est un passage où on le retrouve, dans l'Évangile de Luc au chapitre 3, dans la généalogie de Jésus, donc la descendance de Seth. On retrouve Enoch et on retrouvera tous ses descendants qui vont jusqu'à Jésus. Donc, c'est donc un ancêtre de Jésus-Christ dans la lignée de Seth. Alors, pour que ce soit simple, vous avez eu Adam, vous avez Caïn, Abel et Seth, trois frères. Il y a Abel qui est tué par Caïn, il n'en reste plus que deux, et vous avez la généalogie de Seth qui va constituer, la généalogie aussi de Jésus avec ce personnage qu'est Enoch. Donc il fait partie dans l'évangile de Luc au chapitre 3 de ceux qui sont mentionnés comme ancêtres de Jésus. C'est peu, me direz-vous. Dans l'épître de Jude, qui est la dernière épître, la dernière épître avant l'Apocalypse, il est dit qu'il a été aussi un prophète, il a prophétisé. D'ailleurs, on va le lire, comme ça on l'aura en mémoire lorsqu'on en reparlera tout à l'heure. L'épître de Jude, alors, il n'y a pas de chapitre. Pourquoi il n'y a pas de chapitre? Il n'y a pas plusieurs chapitres? Parce qu'il n'y en a qu'un. Donc, ce n'est pas trop long. Hein. C'est deux pages dans votre Bible, l'épître de Jude. Et il est dit ceci, c'est aussi pour eux, Jude 14, verset 14, c'est aussi pour eux qu'Enoch, le septième patriarche depuis Adam, a prophétisé en ces termes, voici que le Seigneur est venu avec ses saintes myriades pour exercer le jugement contre tous et pour faire rendre compte à tous les impies de tous les actes d'impiété qu'ils ont commis et de toutes les paroles dures qu'ont proférées contre lui les pécheurs impies. En fait, il y est mentionné ici dans l'épître de Jude un livre qui est considéré comme apocryphe dans le judaïsme, mais qui existe, qui est le livre d'Enoch. Et là, il est fait mention d'un épisode ou d'une parole, c'est le fait qu'Enoch a prophétisé en son temps le fait du jugement de Dieu contre ceux qui s'élevaient contre Dieu, qui s'opposaient contre Dieu. Et c'est tout ce que l'on sait de ce fameux Enoch. Alors, en relisant de manière attentive les deux textes que nous avons lus, à savoir la Genèse et l'Épître aux Hébreux, on apprend au moins trois choses. La première, c'est qu'Enoch a marché avec Dieu. La seconde, c'est qu'il a été agréable à Dieu, il plaisait à Dieu, il avait la foi, parce que si on a la foi, on est agréable à Dieu. Et puis, il a vécu une vie exemplaire, modèle en tout cas, sans connaître la mort. On peut dire que ce sont trois caractéristiques que l'on retrouve dans le profil de ce patriarche. Première chose, il a marché avec Dieu. D'autres traductions nous disent qu'Enoch a vécu en communion avec Dieu, ou encore que Enoch suivit les voies de Dieu, la direction que Dieu lui avait donnée. Ça dépend des traductions que vous avez dans vos Bibles. Marcher avec Dieu. Être agréable aussi à Dieu. Mais marcher avec Dieu. Il a vécu 365 ans, on l'a dit, et il a marché pendant tout ce temps avec Dieu. On peut dire que c'est une phrase courte, pour décrire un homme. Le jour où Michel prononcera l'homélie pour mes obsèques, j'espère qu'il fera un peu plus long que ça, qu'il ne dira pas « Bon, Jean-Marc a vécu et a marché un petit peu, plus ou moins bien, avec Dieu. Chantons le cantique et allons au cimetière. » J'espère qu'il aura, il dira « Il y a autre chose à dire. » Or là, de cet homme, on sait juste cela. Il a marché avec Dieu. Mais pourtant, cette phrase-là dit tellement de choses. Marcher avec. Marcher en plus avec Dieu. Est-ce que ce n'est pas, quelque part, l'expression qui enferme, je dirais, toute l'essence de la foi, de la piété, de la vie d'un homme, que de dire « il a marché de telle ou de telle manière » et « avec qui il a marché ?» Lorsqu'une patiente du centre termine son séjour de soins au bout de 2, 3 ou 4 mois, elles ont un entretien avec le directeur et je les reçois dans mon bureau. Et il m'arrive à quelques patientes, quand c'est vrai, de leur dire « on a marché ensemble pendant 2, 3 ou 4 mois » et c'était bien. Et c'était agréable. Il y a des patientes auxquelles je tiens à dire, au nom de l'équipe soignante, écoutez, on a marché ensemble pendant 3 à 4 mois, et c'était un temps agréable pour nous aussi. Parce que marcher avec quelqu'un, ce n'est pas toujours facile. Il fut un temps où je courais avec Émilie, et je dis, j'ai renoncé quand à un moment donné, j'ai vu qu'elle courait beaucoup plus vite que moi. Et c'était plus agréable de courir avec elle. Et puis, il y a des gens avec lesquels on marche, puis on aimerait tellement profiter de cette marche pour respirer. Et puis, vous avez pendant 3 quarts d'heure le moulin à parole qui est là sur votre oreille droite. Vous dites, oh, c'est dommage, c'est dommage. Et ce n'est pas une marche agréable non plus. Et puis, vous avez des personnes qui ont une personnalité, un comportement qui ne rend pas la marche ensemble facile, agréable. Alors, il y a des fois, il y a des patientes, je ne leur dis pas, ça a été agréable, parce que ce serait un mensonge. Ça a été difficile. Personne grognon, négative, toujours à contester. Vous en connaissez ? J'interdis à ma femme de dire oui, 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 oui. Mais marcher à côté de ces personnes-là, ce n'est pas toujours facile de marcher dans le temps à côté d'elles. Or, il est dit ici qu'Enoch a marché avec Dieu et qu'il a été dans une démarche qui a été agréable à Dieu. Comment est-ce que nous marchons, nous, avec Dieu ? Vous savez que cette expression « marcher avec Dieu », en fait, on ne la retrouve que pour 2 hommes dans la Bible. Il a marché avec Dieu. C'est Enoch et Raté. Un autre. Un marin. Oh, ça, c'est un indice. Noé. C'est les 2 seuls hommes dans l'Écriture dont il est dit « ils ont marché avec Dieu ». C'est dire si ce n'est pas une expression courante. Par contre, dans l'épître, dans le prophète Malachi, chapitre 2, verset 6, il y a cette expression où Dieu dit qu'il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il parle de la tribu de Lévi. Cette tribu-là a marché avec moi dans la paix et dans la droiture. Et c'était une expression qui collait notamment aux prêtres qui devaient rentrer dans le temple pour servir Dieu. Marcher avec Dieu dans la paix, dans la droiture. Ça, c'est un témoignage, une marche avec Dieu. Marcher avec Dieu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ce n'est pas simplement, je dirais, une image qui parle de démarche physique, faire des pas avec lui. Ça dit cela. Mais marcher avec Dieu, cela sous-entend vivre en communion avec lui. Marcher avec lui, c'est vivre en communion avec lui. Est-ce que je marche de cette manière-là ? Est-ce que je marche côte à côte ? Est-ce que je suis 3 pas derrière à regarder les fleurs du chemin, ce que me propose le paysage ? Ou bien est-ce que je marche à ses côtés ? Lui à mes côtés et moi au sien. Jésus a dit « Je serai avec vous tous les jours ». Mais est-ce que Si lui le promet, est-ce que moi je suis aussi dans cet engagement de marcher chaque jour avec lui? Vivre en communion. Où est-ce que j'en suis aujourd'hui de ma marche avec Dieu? On peut regarder les autres, on peut regarder l'Église, on peut regarder le monde, on peut s'interroger sur la marche du monde. Mais la question essentielle qui nous concerne chacun pour notre part, c'est de savoir où est-ce que j'en suis dans ma marche avec lui, dans ma communion avec lui, dans ma relation avec lui, et pas d'autre chose. Oh, je peux porter un regard critique sur ma compagne, mon conjoint, je peux poser un regard critique sur l'Église, ici ou ailleurs. Mais la question essentielle, c'est comment est-ce que je marche avec Dieu? Dans quelle relation de communion, d'intimité, je vis ma vie avec lui? Est-ce que je suis capable de m'arrêter de regarder, de me regarder? Vous savez, une marche, pour ceux qui la font, moi j'aime beaucoup la randonnée, et je sais que ce matin, un d'entre nous devait être en randonnée, et puis les conditions climatiques lui ont fait reculer. Il s'est dit, c'est nage et randonnée en même temps, ça ne va pas le faire. Hein ? Mais la randonnée a ceci de particulier, ou la marche a ceci de particulier, c'est qu'elle nous incite à nous mettre aussi en relation avec nous-mêmes. Marcher, c'est ne plus s'occuper de ce qui reste, qu'il y a autour, c'est d'être soi-même dans une certaine dynamique, et puis de laisser aussi ses pensées, voilà, nous replacer au centre de notre vie. Et la question de la marche avec Dieu, c'est est-ce que dans ta marche, tu es capable, je suis capable de faire ce travail où je laisse à la fois mon esprit, parce que mon esprit n'est pas déconnecté de mon corps, et ce n'est pas le Saint-Esprit, parce que je suis charismatique, qui va faire tout le boulot. C'est aussi mon esprit à moi est capable de dire où est-ce que j'en suis dans ma relation avec toi? Où est-ce que j'en suis dans ma vie par rapport à mon comportement, par rapport à mes choix, par rapport aux positions que je prends, par rapport au service, à l'engagement? Où est-ce que j'en suis? Et mon esprit est accompagné par l'Esprit du Seigneur qui me dit « Voilà où tu en es et je te donne de la lumière ». Il y a une, je dirais, une collaboration étroite dans la marche avec Dieu, dans la communion avec Dieu, où mon esprit est accompagné par l'Esprit de Dieu pour me dire « Voilà où tu en es, est-ce que tu es prêt à l'entendre, à l'accepter? Est-ce que tu es prêt à avancer, à marcher avec moi, à être transformé, à être touché par moi ?» Vivre en communion, c'est aussi marcher avec Dieu, conduire sa vie sous son regard, marcher avec Dieu, être sous le regard de Dieu et d'accepter que ce regard voit comment je conduis ma vie, quels sont mes choix et mes options. Hein ? Être en étroite relation avec lui, être dans une relation de proximité ou d'intimité. Il faut de la confiance pour avoir de l'intimité, non ? Marcher avec quelqu'un, ça demande d'accepter, je dirais, une relation d'intimité et de proximité. Les langages corporels sont toujours très intéressants, vous savez, à observer. Lorsque je travaille, il y a des patientes qui ont besoin d'avoir une certaine distance parce qu'il y a de la peur. Peur de l'autre, peur de l'homme, de sa violence, parfois, de son attitude. Peur aussi d'être touchées parce qu'elles sont en souffrance. On peut avoir cette distance par rapport à l'autre. Et puis, il y a, quand il y a la confiance, quand il y a la foi en l'autre, l'acceptation que cette distance se réduise et que je puisse accepter que l'autre rentre dans mon périmètre de sécurité. On a tous un périmètre de sécurité, plus ou moins grand. Ce que Dieu veut, c'est à un moment donné que notre foi en lui, notre confiance en lui, fasse que nous l'acceptions comme quelqu'un qui rentre dans notre cercle, dans notre espace intime. Est-ce que marcher avec Dieu, pour moi, c'est être en étroite relation avec lui, dans une proximité, une intimité que notre Père désire. Notre Père, notre Dieu, désire avoir avec nous une relation intime, proche. Il veut pouvoir toucher notre main, toucher notre cœur. Il veut pouvoir être celui dont la main guérissante touche notre vie. Dans les évangiles, on voit que beaucoup disent « si je touche seulement le Seigneur, je serai guéri ». Mais on peut dire aussi que Dieu souhaite nous toucher, être dans cette relation d'intimité avec moi, avec chacun d'entre nous. Alors comment est-ce possible d'avoir dans la marche avec Dieu cette relation de communion, de conduire sa vie sous son regard, d'être en relation étroite avec lui? Eh bien, le psaume 1, versets 1 et 2, lorsqu'il parle de cette proximité, il dit « voilà, je suis comme un arbre planté près des eaux paisibles ». C'est quand la parole de Dieu, la méditation de cette parole, j'accepte qu'elle rentre dans ma vie et je me l'approprie comme une parole vivante. À ce moment-là, dans ma marche avec Dieu, la proximité est possible, l'intimité est possible. Dans la prière, dans ces temps que j'ai entendu une prière, dans la chambre où nous pouvons nous tenir, seuls avec lui, rentrer dans un temps de prière où cette relation est possible. Est-ce que je rends possible cet acte, cette démarche-là vis-à-vis du Père, ou bien est-ce que je dis « oh non, j'en ai pas besoin ». Je veux marcher avec Dieu, mais à une certaine distance. Marcher avec Dieu, c'est aussi, ça parle aussi de volonté. Marcher, c'est une dynamique. Sinon, c'est faire du surplace. Je fais ça sur mon tapis de sport à la maison. Je cours une heure, et au bout d'une heure, je suis toujours au même endroit. Alors que Pascal, je suis sûr que lui, il court une heure, et il a vu du paysage, etc. Je pense que c'est aussi une image des chrétiens. Il y a ceux qui sont dans une vraie marche avec Dieu, et qui avancent avec lui, qui sont dans une dynamique. Mais marcher avec Dieu, c'est le vouloir, c'est le désirer. J'ai le désir de marcher avec toi, Seigneur. Et on avance. Sinon, on peut aussi faire de la marche sur place, comme sur un tapis de course. Et au bout d'une heure, on redescend. On est resté dans la cuisine d'été, avec le tapis qui a tourné pendant une heure. Mais on n'a pas vu de paysage, on a marché avec personne. Comment est-ce que je marche avec lui? Ça implique se mettre en mouvement, de sortir parfois de son petit confort personnel. Accepter de sortir de son petit confort, de se remettre en cause. C'est devenir actif, acteur dans sa marche avec Dieu. S'engager, s'impliquer en obéissant à Dieu dans ce qu'il désire pour moi. Oh, il y a des commandements qui sont des commandements collectifs. On peut se dire, on peut se réciter le décalogue et dire « tu ne tueras pas, tu ne voleras pas », etc. Mais Dieu, au-delà des volontés collectives qu'il a pour son peuple, de ce qui est bon et juste, il a aussi des plans personnels. Marcher avec Dieu, c'est être confronté au désir de Dieu de révéler ses plans à l'homme ou à la femme que je suis. Voilà ce que je veux pour toi. On parlait tout à l'heure avec une jeune fille des dons. Hein ? Quel don tu as ? Le désir de Dieu, c'est de me révéler quels sont les dons qu'il a déposés en moi. Et je peux vous assurer, quand on est jeune, on ne le sait pas. On ne sait pas, on doute. On se dit oui, peut-être, mais je ne suis pas certain. C'est ça le principe de l'adolescence et de la jeunesse, jusqu'au moment où on commence à discerner quels sont les dons que je possède et qui vont pouvoir être exploitables, utilisables. Les dons qui vont me permettre de construire ma vie, de choisir une orientation professionnelle. Mais ces dons-là, ce sont des cadeaux de Dieu. C'est lui qui, dans sa pensée, a dit « voilà comment je t'ai pensé de toute éternité ». On peut dire « oh non, 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 tu n'as rien pensé, Seigneur. Moi, j'ai rien. J'ai aucun don, aucune capacité. » Être sur cette position-là, et nous le sommes souvent, c'est nier l'amour du Père pour chacun de ses enfants. oublier cet amour et penser qu'il m'a créé comme une enveloppe vide, sans rien à l'intérieur. Je t'ai pensé, je t'ai aimé. Quand on lit la parole que Jérémie a reçue avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je t'avais pensé, imaginé. Ça, c'est une belle parole sur laquelle nous pouvons poser notre foi. Les dons que j'ai sont des cadeaux de Dieu. Et il a une volonté, une pensée pour ma vie, parce qu'il sait qui je suis et ce qu'il a déposé en moi. Et pourtant, ça doit être à la fois une marche qui se fait selon les principes des fruits de l'esprit, une marche où nous avons à laisser ces fruits, l'amour, la joie, la paix, la bonté, s'exprimer de manière humble. Si je marche à côté de Dieu, si j'ai des dons, ce n'est pas pour autant que je dois dire « Bon, allez, dégagez devant, laissez-moi passer. » Non. Je marche avec Dieu dans l'humilité parce que je sais que tout vient de Dieu. C'est le prophète Michée qui disait « On t'a fait connaître, ô homme, et ça marche aussi pour les femmes, ce qui est bien. On t'a fait connaître ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Marcher avec Dieu, c'est aussi affaire d'humilité. Parce que ce que je suis, c'est lui qui l'a désiré, voulu. Les dons que j'ai, ils m'ont été confiés par Dieu. Alors c'est dans l'humilité que je peux marcher. Mais pour autant, c'est aussi dans une dynamique. Je veux marcher, non pas de manière prétentieuse, ostentatoire ou orgueilleuse, mais je veux marcher parce que le Seigneur est à mes côtés et qu'il m'attend dans cette marche avec lui. Alléluia. Alors Enoch était un homme qui marcha avec Dieu. Ça m'est arrivé, vous allez dire que je suis un petit peu morbide dans mes pensées, mais ça m'arrive souvent de penser à la fin de ma vie, puisque a priori, il y en aura une. Je dis bien a priori, sauf enlèvement de l'Église quand je suis devenu chrétien et qu'on m'a expliqué les principes des plans, enfin le plan de salut de Dieu, et qu'on m'a dit, tous les hommes vivent, meurent, et puis ils ont à choisir et à rentrer dans le salut de Dieu. Mais à la fin, il y aura aussi une génération où Jésus reviendra, et puis c'est ceux qui seront là, ils seront enlevés. Et moi, quand j'étais jeune, adolescent, je me disais, chouette, pourvu que je sois dans cette génération, j'aimerais bien, je préférerais partir en étant enlevé. Ceci dit, au bout des années, le temps passe, je me dis, il ne revient toujours pas. Alors je regarde les jeunes avec envie en me disant, c'est peut-être eux. Et je me disais, mais qu'est-ce qu'on mettra sur ma pierre tombale le jour où je partirai? Oui, j'ai des idées comme ça. Alors il y a des choses très très belles, vous savez, c'est Benjamin Franklin qui avait une épitaphe sur sa pierre tombale qui était très très belle, c'est du style ne repose ici que la couverture du livre que j'étais, toutes les paroles qu'elle contenait sont maintenant auprès du Seigneur. Donc c'est plus qu'un livre, voilà. Alors, je dis, bon, je vais peut-être pas repiquer celle de Benjamin Franklin, quelqu'un va s'en rendre compte. J'avais une petite phrase, je me disais, juste une petite phrase du style, pas inversé, mais « avoir été peut-être utile ». Ça, c'est une parole que j'aurais aimée. Puis en relisant ce témoignage sur Enoch, je me dis, il a marché avec Dieu. Ça, c'est une belle parole. Il a marché avec Dieu. Elle a marché avec Dieu. Et il a marché comment? Eh bien, le deuxième point qui était ressorti du témoignage d'Enoch, c'est que dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 11, verset 5, il est dit qu'il a été agréable à Dieu ou qu'il plaisait à Dieu. Waouh! C'est là que je disais, il y a certaines patientes que j'accompagne, je ne leur dis pas qu'elles ont été agréables parce que ça a été parfois un peu difficile. Je les regarde, je dis, bon, on a fait un bout de chemin, mais c'est bien qu'on se sépare maintenant. Comme pour certaines marches avec des personnes un peu grognons. Voilà. Mais Enoch, il dit qu'il était agréable à Dieu. Comment sait-on qu'on est agréable à quelqu'un? Comment sait-on que l'on est agréable, que l'on plaît à quelqu'un. Alors tout de suite, on pense à la relation amoureuse. Hein. Comment on sait qu'on est agréable à la jeune fille qui a touché notre cœur? Bah, quand on lui est agréable, on discerne bien qu'il y a une petite paillette là, qui brille dans le regard quand on arrive, un sourire, le désir d'être à côté. Comment est-ce que ma femme a su que qu'elle m'était agréable? La première année du collège biblique, j'étais 5 rangées au fond à droite par rapport à elle dans la classe du collège biblique. La deuxième, je suis arrivé en retard aussi, j'avais plus que les places du fond. La deuxième année, j'étais dans la rangée juste devant elle, légèrement à droite, et j'oubliais toujours mes stylos. Ce qui fait que je me retournais simplement pour dire « Est-ce que tu aurais un stylo ?» Je pense que là, elle s'est rendue compte qu'elle m'était agréable. Comment est-ce qu'on perçoit qu'on est agréable? Je dirais, c'est quand notre être tout entier plaît à l'autre, que l'on est approuvé par l'autre. Comment est-ce que l'on peut penser que l'on est agréable à Dieu? C'est quand ce que nous sommes, tout ce que nous sommes, est approuvé par Dieu. Enoch était dans son attitude, son comportement, approuvé par Dieu. Quel privilège! Quelle grâce! Être agréable à Dieu, c'est avoir le désir de plaire. Et là encore, on est dans un acte de volonté. On n'est pas dans « Seigneur, tu m'as mis une robe blanche, je suis pardonné, maintenant je te suis agréable ». Non, ce n'est pas simplement le pardon des péchés qui fait que l'on est agréable à Dieu. C'est quand tout notre être tend vers lui et désire être conforme à ce qu'il aime. Quel conjoint désirant être agréable à son épouse ferait le contraire de ce qu'elle aime, et inversement. Quand on veut être agréable à l'autre, on fait en sorte que tout ce que l'on est soit reçu de manière positive par l'autre. Alors être agréable à Dieu, ça signifie se mettre en marche, travailler, vouloir plaire à Dieu. Et comment peut-on lui plaire? Paul aux Philippiens disait « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Travaillez. Travaillez à votre relation. Travaillez à ce que vous êtes. Travaillez à ce qui doit être transformé dans votre vie. Non seulement quand je suis là, dit Paul aux Philippiens, parce que c'est facile. Ah oui, il y a Paul rangé. La semaine d'après, dans 10 jours, j'ai la visite de sécurité. J'ai commencé à mettre des mots à tous les services. Éviter les chaises dans les couloirs, enlever les cendriers, etc. C'est la visite de sécurité. Après, vous pourrez les remettre. D'ailleurs, dans la note, j'ai mis « Affaire par Corinne Wiedemann ». C'est-à-dire, tu verras lundi en rentrant au bureau. Faire le tour de la maison. Et Paul dit la même chose. « Faites pas cela quand je suis avec vous. Faites-le comme un désir ardent de plaire à Dieu. » Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Est-ce que j'ai envie de faire plaisir à Dieu par ce que je suis, par l'acceptation de l'œuvre que j'accepte dans ma vie? Il est comme un père, vous savez. Et quand il voit ses enfants accepter de grandir, de faire des choix de sainteté, de pureté, d'obéissance, il se réjouit et nous lui sommes agréables. Il y a un commentateur de l'Épître aux Hébreux que l'on présente souvent maintenant comme ayant une approche un peu piétiste qui s'appelle Andrew Murray. C'est le seul bouquin que j'ai dans mon téléphone. Je ne sais pas comment j'ai réussi à le rentrer. Je voulais aller voir sur Internet Andrew Murray, ça fait il y a 3-4 ans. Et puis, je ne sais pas comment j'ai fait, le bouquin est arrivé dans... Le livre tout entier est arrivé dans mon téléphone. Ça m'arrive de lire l'Épître aux Hébreux commentée par Andrew Murray. Et Andrew Murray disait... dans ce commentaire, qu'être agréable ou tirer un modèle de ce qu'est Enoch, il dit, bah, c'est au moins 3 leçons, c'est comprendre la nature de la foi. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est le verset 6 qui vient juste après ce qu'il est dit d'Enoch dans l'Épître aux Hébreux. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Vous voulez être agréable à Dieu? cultiver, développer une position et une relation de foi. Et la relation de foi, c'est une relation de confiance en Dieu. L'Épître aux Hébreux dit « Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. » C'est quand même le préalable. Être dans une position de foi, c'est croire que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alors, rémunérateur, ça, dès qu'on parle de rémunération, on se dit « Oh là, ça doit être un texte important, ça. Hein. » On parle de salaire, etc. Non, c'est que la foi que je dépose en Dieu, j'en ai un retour de sa part. Il honore ma foi. Il augmente, non pas mon porte-monnaie et mon compte bancaire, mais il augmente tout ce qui est bon dans cette relation entre lui et moi. Andrew Murray dira aussi que Enoch parle par sa démarche dans l'Épître aux Hébreux, tel qu'il en est parlé, d'un homme qui a eu confiance et qui a eu cette pensée que la foi a une récompense. Et cette récompense, elle est évoquée dans l'Épître aux Hébreux, où il est dit il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Je me suis demandé, mais comment il a reçu ce témoignage? Comment on peut recevoir le témoignage qu'on est agréable à Dieu? Moi, quand je suis agréable vis-à-vis de mon épouse, en général, après, j'ai le droit à un bon repas, j'ai le droit à un bisou, j'ai le droit à un signe. Je dis, tiens, là, c'est le témoignage que je lui ai été agréable. On n'est pas dans une relation donnant-donnant, mais vous le vivez aussi. Quand on est agréable à quelqu'un, tout à coup, hop, on a un retour, on se dit, ah, oh, c'est sympa. Elle a perçu ce que j'ai fait pour lui ou pour elle, et j'en ai, par son comportement, par ses paroles, un retour. J'ai le témoignage que je lui suis agréable. Dieu est un Père qui a le même comportement pour chacun d'entre nous. Quand nous faisons, quand nous tendons à être dans une démarche de foi et de confiance, il y a un retour où nous avons l'Esprit Saint qui en nous fait ressentir, éprouver, recevoir ce témoignage que nous lui sommes agréables. Ça ne tombe pas dans le vide, vous savez. Être agréable à Dieu, lui faire confiance, ce n'est pas une démarche qui fait que tout à coup, ça tombe à plat, puis on ne sait pas trop ce qui se passe derrière. Est-ce qu'il est là? Est-ce qu'il a reçu ma démarche de foi? Non, non. Le Saint-Esprit. Parfois, ça passe par la communauté, par un frère, par une sœur, par diverses manières. Mais Dieu nous fait savoir, tu sais, là, tu m'as été agréable. La foi sait qu'elle est agréable à Dieu. Je vais arrêter là en terminant juste sur cette notion, c'est que Enoch, il est dit dans le livre de la Genèse, a vécu 365 ans. Or, je vois tout de suite des têtes qui disent « Waouh !» Mais c'est celui dans la Genèse qui a vécu le moins. Ben oui, quand même, Adam a vécu 930 ans, Seth 912, Enoch 905, Kenan 910. Il y a un petit jeune qui est mort tôt, il est mort à 895. Je ne sais pas ce qu'il a fait. Accident de mobylette, certainement. Conduite de jeunes à risque, vous savez, c'est ça. Jared, son fils, 962. Le père d'Enoch, 969. Enoch, 365. Petit jeune, quand même. Alors, c'est bien la peine qu'il meure. Oui, tu veux... Alors, il faut prendre ces textes-là aussi comme des textes, je dirais, qui donnent une image de l'action du péché. Le péché est rentré progressivement dans l'univers et dans le monde. Une des explications des rabbins, notamment, lorsque Noé s'alcoolise, c'est de dire, en fait, il y avait le péché rentrant progressivement, eh bien, le péché, c'est la mort, et la mort rentre progressivement, et les vies, ensuite, des hommes se raccourcissent. Une des explications, c'est de dire c'est que le péché rentrant, la mort, c'est lié au péché, eh bien, la vie des hommes et de la nature aussi. C'est pour ça qu'une des explications du fait que Noé se soit alcoolisé, c'est tout simplement parce qu'il a commencé à boire du jus de raisin et que la fermentation, le ferment, c'est un des principes de la mort, touchait aussi la nature et qu'il a été surpris. C'est une manière aussi d'exonérer Noé, peut-être. Moi, je me dis que c'était quand même un marin, le premier marin. Il arrive au port, il se prend une cuite. Ça peut être une autre explication, mais j'en suis pas sûr. Là, il n'y a aucun rabbin qui me l'a apporté, celle-là. Donc voilà, c'est pour répondre à ta question, c'est la progression. Mais en fait, Enoch, 365 ans, petit joueur. À la rigueur, on se dit, mais alors, si Dieu l'a enlevé, pourquoi il n'a pas attendu au moins 600, 700, 800, 900 ans? C'est-à-dire que quand il est mort, Adam était mort depuis quelques années, mais les autres, quand il a été enlevé, puisqu'il n'est pas mort, quand il est enlevé, il y en a une grande partie de sa famille qui est encore présente. Alors, si nous ne vivons pas 365 ans, c'est peu probable. En plus, on a eu les perspectives INSEE, ça a augmenté pour les femmes. On commence à les rattraper, mais on est encore derrière, en espérance de vie, mais on n'aura pas probablement à 365 ans. Mais est-ce que nous pourrions pas, en ce début d'année, de nous dire, marcher avec Dieu comme Enoch, le vivre pendant 365 jours? Est-ce que cette année pourrait pas être une année où nous nous disions, à défaut de 365 ans, je veux marcher comme Enoch pendant 365 jours? Enoch était le septième descendant d'Adam. Et je terminerai avec cela. Septième dans la lignée de Seth. Donc vous avez Caïn, Abel, Seth. Abel est tué. Et vous avez deux lignées qui restent, celle de Caïn, le meurtrier, et celle de Seth. Enoch est le septième descendant d'Adam et Ève dans la lignée de Seth. Et c'est celui dont il est dit, il a marché avec Dieu. Si vous regardez quel est le septième descendant de la lignée de Caïn, vous vous rendez compte que c'est Lémec. Et Lémec disait, dans le livre de la Genèse, à ses femmes, puisqu'il avait deux femmes, Ada et Tsila, et il disait ceci, septième descendant de la lignée de Caïn, « Écoutez ma voix, Ada et Tsila, femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure et un enfant pour ma meurtrissure. Caïn sera vengé 7 fois, Lémec 77 fois. » On a deux lignées, d'un côté celle de Caïn, l'autre côté celle de Seth, qui donnera la lignée de Jésus. C'est intéressant de voir que à cette septième génération, et le 7 étant le chiffre de Dieu, on puisse voir à la fois la lignée de Dieu, de Christ, et la lignée de l'homme, avec cet homme qui dira, dans la même génération qu'Enoch, « Voici, moi je reste sur la vengeance, et je me vengerai 77 fois si on me fait du mal. » Et ça renvoie à l'opposition de la parole de Christ qui dira, « Combien devons-nous pardonner ? Vous pardonnerez 77 fois, 7 fois. » Et on voit l'opposition entre ces deux générations, deux généalogies. Serons-nous, chacun pour notre part, des hommes et des femmes qui marcheront avec Dieu de la lignée de Seth, de celle de Christ? Et ce qui est intéressant, c'est que cette lignée de Seth dans laquelle s'inscrit Enoch, dans laquelle s'inscrit Jésus, c'est une lignée qui n'a pas connu la mort, en tout cas dans le cas d'Enoch, mais qui, dans la personne de Christ, fait que nous ne connaissons pas nous non plus, même si nous connaîtrons la mort physique, la victoire de Christ fait que nous avons la vie pour l'éternité. Dans l'Épître aux Corinthiens, et je citerai juste ce verset pour terminer, Paul dit, en parlant de la victoire qui a été acquise à la croix par Jésus-Christ, « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ? Même si nous avons à connaître la mort physique, dit Paul, si nous marchons comme Enoch, eh bien, nous pouvons aussi être au bénéfice de la vie éternelle qui nous est accordée en Jésus-Christ. Soyons les uns et les autres, des hommes, des femmes, des jeunes gens qui décidions à un moment donné de marcher avec Dieu et de lui être agréable comme le fut Enoch. Amen.